CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, nous sommes le 25 mars pour cette 76e émission déjà de Radio VCE. On vous propose un programme chargé puisque dans un premier temps, Monique Couteau va nous parler du PLUI. C'est quoi cette actualité ?
C'est le plan local d'urbanisme intercommunal dont le conseil municipal de février a traité. Donc j'essaierai d'expliquer quelques informations sur ce PLUI, vu que ça fait presque 4000 pages, donc voilà.
Effectivement, ça méritera peut-être l'explication de texte. On sera suivi d'Alain de Frémont dans sa rubrique bande-annonce, qui va, en bon voisin, nous faire visiter une partie de Sèvres.
Oui, alors donc, tout à côté de la manufacture, il y a quelques mois a été créé le Jardin de l'Art et du Design. À cette occasion, il y a une exposition assez intéressante qui a lieu jusqu'au 21 avril.
C'est parfait. Et enfin, nous conclurons par la rubrique « À portée de parole ». Monique accueille aujourd'hui un militant d'Amnesty International dans le groupe local de Chaville. Je te laisse le présenter.
Oui, c'est Philippe Luxereau qui effectivement milite à Amnesty et qui connaît bien la situation en Palestine et qui viendra nous parler de l'action d'Amnesty International dans le cadre des événements qui se déroulent en ce moment.
Entendu, voilà un beau programme. Avant de commencer, un petit rappel sur une actualité de l'association Vivons Chaville Ensemble, puisque il y a une exposition en ce moment. Valérie Griffon est une artiste peintre sévrienne qui nous fait l'honneur d'exposer ses œuvres jusqu'au 6 avril au local La Place Citoyenne. Ça se trouve dans le centre commercial des Créneaux, juste à côté de la ressourcerie. C'est ouvert tous les mercredis et samedis après-midi. L'entrée est libre, vous y êtes tous et toutes les bienvenus. Tout de suite, la chronique, les dossiers du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Oui, donc le PLUI, il en a été question au conseil municipal de février, de même qu'on a abordé les orientations budgétaires. Nous reparlerons du budget après le conseil municipal de fin mars, puisque les orientations budgétaires donnent des grandes lignes, des indications, et puis ensuite c'est traduit par le vote du budget, donc on en parlera à ce moment-là. Aujourd'hui, donc, nous abordons la question du PLUI, puisque depuis 2016, c'est au niveau de GPSO et de ses 8 communes qu'il doit être élaboré pour les 10 ou 15 ans à venir.
Alors effectivement, c'est des dossiers bien techniques sur l'urbanisme local avec des conséquences très concrètes. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le déroulement et l'élaboration du calendrier ?
Oui, alors le travail a démarré en 2021 par un rapport de présentation qui faisait état de la situation de l'environnement de départ et des choix retenu. Puis, il y a eu élaboration du projet de développement et d'aménagement durable, PAD, en 2022, qui définissait le projet politique du territoire et sur lequel nous avons fait 3 chroniques. Vous pouvez aller les écouter si vous en avez envie. En 2023, c'est l'année de l'élaboration des outils réglementaires et des OAP, c'est-à-dire des orientations d'aménagement et de programmation, qui traduisent ensemble les orientations du PAD. En tout, donc, des centaines et des centaines de pages, puisque je me souvenir qu'on atteint les 4000. 2024 est l'année des consultations finales, dont une enquête publique à partir de juin, à laquelle tous les habitants pourront participer, avant l'adoption définitive en décembre ou janvier prochain, pour une entrée en vigueur en 2025. Rappelons que le PLUI doit aussi être compatible avec des schémas directeurs de la région Île-de-France, de la métropole et une intervention aussi de l'État. Le PLUI comporte des nouveautés par rapport au PLU.
Alors c'est vrai qu'il y a une jungle là de documents bien techniques parmi tout ce que tu as cité. Comment ça se présente concrètement en fait, ces outils réglementaires et ces orientations d'aménagement et de programmation, tous ces documents-là qui fixent les conditions d'aménagement de la ville pour les prochaines années?
Alors le règlement comporte 10 chapitres, comme par exemple nature et biodiversité, morphologie et implantation des constructions, qualité urbaine, architecturale et environnementale, mixité fonctionnelle et sociale, patrimoine bâti et paysager, il y a 201 bâtis ou ensembles bâtis protégés sur Chaville par exemple, stationnement, je ne les cite pas tous, il définit aussi le découpage de chaque commune en zone urbaine pour lesquelles des règles communes ou différenciées sont déclinées dans le règlement. Le PLUI comporte trois OAP thématiques, une sur les espaces publics et la mobilité, donc organisation des espaces publics et stationnement, une sur les continuités écologiques et une sur les énergies, projet de géothermie et récupération de chaleur fatale des eaux usées à Chaville par exemple. D'autres OAP sectorielles concernent des espaces particuliers dans les sept autres villes de GPSO. Sur les zones, à Chaville, 4 zones sur les 7 définies à l'échelle de GPSO, car les 8 villes ont dans certains domaines des profils très différents. Exemple, à Chaville, il n'y a pas de zone de multiples activités économiques et de zones d'intérêt collectif, type usine d'incinération ou encore berge de la Seine. Chaque zone peut comprendre des secteurs identifiés particuliers et des sous-secteurs qui ont été prévus à l'échelle du territoire. Alors, la zone U1. Elle correspond à des zones de centralité avec une densité relativement importante et une grande mixité des fonctions. Avenue Roger Salingros et gare de Chaville par exemple. Elle distingue deux secteurs et un sous-secteur. Elle représente 31 hectares, soit 17% de notre espace urbain. Dans l'ancien PLU, cette zone s'appelait la zone UA. La zone U3 correspond à une zone à dominante pavillonnaire. Elle comprend deux secteurs et deux sous-secteurs, représente 115 hectares, soit 61,5% de l'espace urbain. Dans l'ancien PLU, c'était la zone UR. La zone U4, qui est une zone à dominante résidentielle, des quartiers de résidences d'habitat collectif. Elle comprend trois secteurs, elle fait 40,5 hectares, soit 21,5% de l'espace urbain. Et dans l'ancien PLU, c'était la zone UP. Enfin, une zone N d'espace forestier pour la forêt de Fausse-Repose et pour celle de Meudon. En termes de zone, une simplification donc par rapport à l'ancien PLU. Chacun peut, sur le site de la mairie, voir le projet et en particulier la carte du zonage.
Oui, c'est effectivement bien dense et on aime bien les acronymes, mais voilà, c'est assez particulier comme exercice. Donc on se doute bien qu'il y a un exercice de zonage assez traditionnel dans un plan local d'urbanisme, donc même à l'échelle intercommunale. Mais donc tu as parlé aussi de nouveautés dans ce plan précis. De quoi s'agit-il ?
Alors, je ne peux pas tout développer dans cette chronique, mais seulement donner quelques informations. Il y a toute une série de mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la préparation des villes de GPSO aux conséquences du réchauffement climatique. Il y a des règles thématiques donc définies au niveau intercommunal, comme celle du taux de pleine terre réglementaire à atteindre. Il faut tendre vers 30% au niveau d'îlots définis sur les cartes, et donc ces données, on sait à quel îlot on appartient, et un coefficient de biotope surfacique. Alors ça veut dire quoi ? Là où le taux de pleine terre ne peut être atteint, il peut y avoir une compensation sur l'îlot par des surfaces végétalisées, murs, toitures, gazon, gravier ou des surfaces semi-perméables, des pavés qui laissent pousser l'herbe entre eux, chacun de ces éléments étant affecté d'un coefficient de pondération. Ce qui aura des conséquences, par exemple, sur la possibilité d'extension horizontale des constructions sur certaines parcelles. Des mesures de protection des trames vertes et bleues sur Chaville, 150,5 hectares d'espaces boisés classés contre 137,7 dans le PLU, 3 mares plans d'eau protégés contre 1 dans le PLU, 104 arbres remarquables ou repères contre 52, 15,7 hectares d'espaces végétalisés protégés contre 12,2 hectares, un emplacement réservé pour espaces verts et résurgence du rue de la source, des mesures de protection des lisières de forêt pour 2,7 hectares, ça n'existait pas dans l'ancien PLU, qui impose une distance pour toute construction et un type de clôture poreux à proximité de la forêt donc. Il y a aussi des créations de corridors écologiques, alors là, ils sont prévu en pas japonais, de façon discontinue. Je n'ai honnêtement pas tout compris, mais ça viendra. On peut ajouter la restauration de 3 centres et un accès nouveau au quai de la gare Rive-Droite. pour la rénovation des copropriétés, la possibilité de surélévation de deux niveaux sous condition d'amélioration des performances énergétiques pour les immeubles R plus 3 étages dans les zones de centralité et à condition d'une bonne insertion architecturale. Pour la préservation et le développement des commerces et activités de service, encadrement des changements de destination et obligation de rez-de-chaussée actif en cas de démolition reconstruction, à l'exemple de ce qui s'est fait en face de l'atrium. Pour la mixité sociale, 30% de logements sociaux de type PLAI ou PLUS exigés en surface de plancher à partir de 15 logements ou 1200 m² de superficie de plancher. Les logements en bail réel solidaire, BRS, sont intégrés dans ce pourcentage. Des règles nouvelles aussi pour les stationnements à prévoir, une place par logement, une demi-place pour le logement social et pour les vélos, une ou deux places en fonction de la taille des appartements ainsi qu'un nombre de mètres carrés minimum pour les locaux qui vont les abriter.
Oui, c'est effectivement une énumération à l'après-vert, mais on voit bien que les enjeux sont extrêmement importants. Donc c'est un vrai défi, là, vu la complexité de ce type de document à analyser. Il faut prendre le temps de se l'approprier. Ça touche des enjeux généraux pour toute la ville et en particulier pour tous les quartiers, en fait, où on vit au quotidien. Et donc, on peut s'interroger sur les modalités de cette enquête publique qui va démarrer au mois de juin. Avec quels moyens est-ce que les habitants vont pouvoir s'emparer de cette occasion-là de s'exprimer ? Ça va être des choses à discuter. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Les élus du groupe Vivons Chaville au conseil municipal pourront les poser en conseil municipal. Donc, c'est un vrai outil, en fait, d'interpellation des élus. N'hésitez pas à l'utiliser. Merci beaucoup, Monique, pour cette présentation détaillée. On va passer tout de suite à la rubrique d'Alain de Frémont.
Bande annonce avec Alain de Frémont.
Bonjour Alain, tu vas nous parler du JAD. C'est quoi comme acronyme ?
Alors bonjour Jonathan, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous emmène à Sèvres, du côté de la manufacture, pour découvrir une exposition au JAD. Ce qui signifie Jardin des métiers d'art et du design. Le Jardin des métiers d'art et du design, dernier né des équipements culturels du département, entend construire un dialogue entre ces deux disciplines, les métiers d'art et le design. Le site, ce sont deux bâtiments mitoyens classés monuments historiques, entièrement rénovés, à deux pas de la manufacture de Sèvres, en bordure du domaine de Saint-Cloud. Tout ceci s'y prêtait parfaitement bien. Le JAD a été imaginé comme un lieu d'ouverture au croisement entre les métiers, les publics et les institutions d'art et de culture du territoire et les métiers du design qui, eux, s'inscrivent de plus en plus dans notre quotidien, s'emparent des nouvelles technologies et inventent de nouveaux matériaux et de nouveaux usages.
Et qu'est-ce qu'on peut y voir pour le public ?
Eh bien, jusqu'au 21 avril, tous les jours, de 14h à 19h, l'exposition s'intitule « Tisser l'avenir, habiller les corps ». Et cette exposition propose une réflexion sur les savoir-faire du textile et leur contribution à une mode durable.
Ah, ça c'est une notion pas très simple à appréhender. Est-ce que tu peux nous donner des pistes ?
On va y découvrir des artistes et des designers qui travaillent sur trois axes. La sobriété, le réemploi et le retour à la naturalité. Avec parfois deux axes qui se chevauchent. Quelques exemples. Pour la sobriété, Valérie Mbreugen, romancière, plasticienne et vidéaste, nous propose un déshabillé, illustré par une vidéo durant laquelle Ariel Dombal, inimitable, nous fait l'apologie de ce vêtement. Le réemploi est évoqué par la marque de vêtements 1083, qui s'est donné pour mission de relocaliser le maximum d'étapes de la fabrication du vêtement et en particulier du jeans en France. Le retour au concept de naturalité est venu à l'idée de Anaïs Beaulieu qui reprend l'expression « être habillé comme un sac à patates » et nous propose une très jolie robe baptisée « robe de fortune » confectionnée avec des filets de pommes de terre glanées à la fin des marchés.
Mais pourquoi pas ?
Je vous rappelle, c'est jusqu'au 21 avril au Jardin d'art et du design, 6 Grandes Rues à Sèvres.
Mais c'est parfait. En plus, c'est vraiment juste à côté, l'arrêt Musée de Sèvres sur le bus 171. On est à moins de 10 minutes de Chaville. Merci beaucoup, Alain de Frémont. Tout de suite, la rubrique à portée de parole.
à portée de parole avec Diane Lafront.
Bien, bonjour Philippe.
Bonjour Monique.
Merci de venir pour Amnesty International nous parler de vos actions pour la Palestine en ce moment. De 1993 à 2014, tu as fait plusieurs missions en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, parfois pour Amnesty International, souvent pour des missions médicales. Tu connais donc bien la région et les problèmes. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous dire quelle est la position d'Amnesty International sur les événements récents en Israël et en Palestine ?
Alors, je voudrais dire que pour Amnesty International, la situation à Gaza en ce moment, et en Palestine en général, s'est imposée comme une urgence prioritaire au fil des semaines qui ont suivi l'attaque du Hamas du 7 octobre. Je voudrais dire en préalable deux choses. Il faut qu'il soit bien clair que dès l'attaque du Hamas, Amnesty a condamné et condamne clairement et fermement ce qui, à ses yeux, est une série de crimes de guerre et d'homicides délibérés de civils. Alors, je vais citer quelques-uns des communiqués qui ont été faits. L'attaque, la première attaque date du 7 octobre, donc, et le même jour, le premier communiqué d'Amnesty s'intitule « Les civils des deux parties au conflit payent le prix de l'intensification sans précédent des hostilités ». Et on lit dans le texte, les groupes armés palestiniens de Gaza ne doivent pas prendre pour cible des civils, ces actes constituant des crimes de guerre. Quelques jours plus tard, le 10 octobre, trois jours plus tard, on en est à 6550 morts à Gaza et environ 1200 en Israël, autour de Gaza. Sur le site d'Amnesty, on peut lire, plus de 200 otages ont été pris par le Hamas. Une catastrophe humanitaire sans précédent touche Gaza et s'aggrave de jour en jour. Et ce même jour, Amnesty lance sa première pétition sur le sujet. Le 12 octobre, donc on en est au cinquième jour des événements, un nouveau communiqué, les groupes armés palestiniens doivent répondre des homicides délibérés, des enlèvements et des attaques menées sans discernement contre la population civile. Et le 13 octobre, donc on est à la fin de la première semaine après l'attaque, un communiqué, Israël doit annuler immédiatement l'ordre d'évacuation de Gaza, puisque vous savez qu'à ce moment-là, Israël a commencé à imposer des mouvements de population, des mouvements forcés de population vers le sud, ce qui peut constituer un déplacement de population civile en violation du droit international humanitaire. Alors, si j'ai tenu à faire ces premières déclarations, c'est pour qu'il soit bien clair que Amnesty est impartial. Et ça, je le dis parce qu'on est souvent accusé de partialité, on est souvent accusé de raisonnement ou de description biaisée. Et je voudrais remettre les choses, la vérité, bien claire.
Tu as bien fait.
Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est de rappeler qui n'est pas du mandat d'Amnesty International de proposer une solution politique au conflit, parce qu'évidemment, en ce moment, chacun propose sa solution, sa politique, on anticipe sur l'avenir, et le mandat d'Amnesty International nous impose d'être politiquement impartial et nous impose de nous contenter de surveiller, d'enquêter et de dénoncer les violations des droits humains. Alors, sur les enquêtes, peut-être qu'on y reviendra sur les méthodes d'enquête, mais bon, ça, c'est deux points qui doivent être bien, bien précisés. Ceci posé, le projecteur s'est évidemment rapidement tourné vers Gaza. On s'est aperçu que l'armée israélienne commet quotidiennement, depuis plus de 5 mois maintenant, et en toute impunité, un carnage comme on en a rarement vu. Et tous les observateurs qui sont habitués des situations de conflit disent que c'est du jamais vu, qu'on n'a jamais vu une telle violence et d'innombrables crimes de guerre sont commis. Alors, on ne peut pas faire l'économie d'un inventaire de la situation. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais il faut dire ce qui se passe et il y a beaucoup à dire. Gaza, c'est un tout petit territoire, 365 km², c'est un tout petit peu plus que 3 fois Paris. C'est un territoire qui est densément peuplé, 2,3 millions d'habitants, et c'est un des endroits du monde où la densité urbaine est la plus élevée. Et c'est un territoire qui est sous blocus total depuis 17 ans, de la part d'Israël et de l'Égypte. Donc c'est un territoire qui est contrôlé par la mer, par la marine de guerre israélienne, et par la terre, par les pays riverains qui sont l'Égypte et Israël. Et c'est un territoire où on ne peut pas entrer et d'où on ne peut pas sortir sans une autorisation soit d'Égypte, soit d'Israël, et qui est complètement entouré de murs, etc. C'est l'expression habituelle qu'on utilise, c'est prison à ciel ouvert. Alors si on veut faire le bilan de ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer, on est obligé de recueillir des informations qui viennent essentiellement, je pense, des Nations Unies. Parce qu'il y a un bureau des affaires humanitaires des Nations Unies qui est en relation avec des employés à l'intérieur de l'enclave de Gaza, parce que les journalistes n'y sont pas autorisés. Amnesty International n'est plus autorisé depuis des années. Moi, j'y suis allé plusieurs fois pour Amnesty, mais maintenant, ça n'est plus possible. On ne peut plus aller dans les territoires occupés. Et donc, on a des informations par ce bureau qui s'appelle l'OCHA et qui nous dit que le bilan humanitaire est effroyable. Entre le 7 octobre, c'est-à-dire le jour de l'attaque du Hamas, et le 14 mars, on a répertorié au moins 31 000 Palestiniens tués à Gaza. 70% de ces personnes tuées sont des femmes et des enfants, c'est-à-dire essentiellement des civils. Et on compte aussi plus de 73 000 blessés. Et il faut dire tout de suite que ces chiffres sont manifestement sous-estimés, parce qu'ils tiennent compte seulement des tués identifiés, et que ça ne tient pas compte des plus de 10 000 disparus qui sont ou qui ont été enterrés à la va-vite, ou qui ont été enterrés dans des fosses communes à l'intérieur des hôpitaux qui étaient assiégés, ou qui sont simplement restés sous les décombres, puisque maintenant les ruines, toute la bande de Gaza est ruinée. Et en plus, il s'agit de chiffres qui augmentent tous les jours, puisque tous les jours, quand on va sur les mises à jour qui sont quotidiennes, les mises à jour des Nations Unies, tous les jours, c'est entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de tués qui s'ajoutent.
Supplémentaires.
Alors, si on veut se livrer à l'exercice de voir en proportion de la population à quoi ça équivaudrait pour un pays comme la France, eh bien ça serait au minimum 800 000 morts et probablement certainement plus d'un million de morts. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. Les chiffres des Nations Unies pour les enfants, c'est 12 300 et ce serait, alors là c'est peut-être un petit peu plus difficile à affirmer, mais ce serait plus de 4 fois le nombre d'enfants tués dans des conflits dans le monde pendant ces 4 dernières années. Donc c'est un bilan qui est extrêmement élevé. Alors, les victimes résultent des bombardements qui sont systématiques et massifs et indiscriminés. Ça, c'est un point important parce que le principe de discrimination, c'est un principe fondamental du droit international humanitaire. Ces bombardements proviennent à la fois de la marine de guerre qui croise au large de Gaza, de l'aviation et des troupes au sol par des tirs d'obus de chars. Tout ça se fait au mépris total de la vie des civils non combattants. Pour vous donner une idée, entre le 7 octobre donc et début février, 25 000 tonnes de munitions, bombes, obus, missiles, etc. avaient été déversées sur Gaza, y compris des armes qui sont interdites, c'est-à-dire des obus au phosphore et des bombes à sous-munitions. Ce sont des armes qui sont interdites dans les zones civiles. Alors, Israël avait reconnu en 2009, après aussi une grosse intervention militaire qui s'appelait plomb durci, avait reconnu l'utilisation d'obus au phosphore et avait nié que ce soit dans des zones civiles. Il se trouve que moi, je suis allé à Gaza au décours immédiat de cette opération et que j'avais visité un hôpital qui avait été bombardé, qui avait d'ailleurs été déjà bombardé auparavant et qui, par la suite, sera complètement détruit en 2014. Mais en 2009, On avait visité cet hôpital et les amis palestiniens qui nous accompagnaient nous avaient dit, on voyait dans le sable des espèces de petites éponges marron. Ils m'avaient dit, ben frotte avec ta semelle. Et j'avais frotté avec la semelle, ça s'enflamme. Et c'était des obus au phosphore. Et on ne peut pas dire que là, c'était une zone militaire, puisque c'était dans la cour d'un hôpital. Il y a des catégories qui sont particulièrement visées. C'est les journalistes. Pour Reporters sans frontières, il y a eu 84 journalistes tués. Et pour le syndicat des journalistes palestiniens, c'est 117 au 30 janvier. Donc on ne sait pas où on en est maintenant. Une autre catégorie qui est spécialement visée, c'est les employés de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'agence nationale qui vient en soutien aux réfugiés palestiniens. Et cette agence a perdu, selon son directeur, au moins 165 tués et 150 installations de l'UNRWA ont été visées par des bombardements. 1,5 million de personnes ont été déplacées de force du nord vers le sud, où ils survivent tant bien que mal, entassés dans des abris de fortune. Et je rappelle au passage que le déplacement forcé de population, c'est un crime de guerre au regard du droit international. Il y a 17 000 enfants non accompagnés ou isolés, les parents étant souvent morts. Et puis, la famine est utilisée comme arme de guerre. Donc je pense que tout le monde a vu par les journaux qu'Israël empêche l'acheminement de l'aide alimentaire, de l'aide en eau potable. Ce qui fait que, je vais citer une déclaration du chef d'état-major de l'armée qui avait déclaré au début des opérations qu'Israël imposait un siège complet à Gaza. Il avait ajouté, il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant, tout sera fermé car Israël combat des animaux humains. Donc on voit bien que là il y a une intention, et on en reparlera peut-être après, oui. Une intention qu'on peut qualifier de génocidaire. Et ça, c'est retenu d'ailleurs dans les décisions de la Cour internationale de justice qui s'est penchée sur cette question-là. Alors, cette famine-là, elle a été documentée et par un organisme qui dépend du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui disait que le 7 décembre, c'est daté du 7 décembre, c'est-à-dire il y a longtemps, il y a 3 mois, il y avait plus de 90% de la population qui souffrait déjà d'insécurité alimentaire, 40% étaient en urgence alimentaire et plus de 15% en état de famine. Plus de 90% des Palestiniens du nord de la bande de Gaza affirment passer régulièrement plus de 24 heures sans nourriture et sans eau potable. Il s'ajoute à ça des conditions d'hygiène qui sont déplorables, puisque l'eau est polluée, les ordures ne sont pas ramassées, ce qui favorise les épidémies, diarrhées, infections respiratoires, hépatite A, qui sont extrêmement fréquentes maintenant. Le ministère de la Santé palestinien a signalé le 12 mars que 27 personnes, dont 23 enfants, étaient morts de malnutrition et de déshydratation dans les hôpitaux du nord de la bande de Gaza. Et évidemment, c'est encore un chiffre qui est sous-estimé, puisque ça ne prend pas en compte les décès en dehors des hôpitaux. Selon l'ONG Care International, on rapporte que dans ces abris, chaque jour, des femmes enterrent leur nouveau-né qu'elles ont été dans l'incapacité de nourrir et de soigner. Tous les enfants souffrent de dépression et de syndrome post-traumatique. Alors ça, c'est pour le bilan humain.
Et tu parlais aussi de tous ceux qui sont sous maladie chronique et qu'on ne peut absolument pas soigner. C'est-à-dire tous les morts parce qu'il n'y a plus de dialyse, parce qu'effectivement, c'est aussi à rajouter. Hein, même si
oui, oui, oui. Effectivement, on manque de médicaments, on manque de tout. Les malades chroniques, alors là on n'est plus dans les enfants, mais à le bout de la vie, ne sont plus soignés. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies rénales, l'hypertension artérielle. Les dialyses sont à l'arrêt. Il n'y a plus d'insuline, ce qui veut dire, et là c'est le médecin qui parle, que les insuffisants rénaux ou sont morts ou vont mourir, que les diabétiques insulino-dépendants vont mourir de coma acido-cétosique. Enfin, donc effectivement, le système de santé est complètement
à bout de souffle.
Alors, si on veut faire maintenant le bilan des destructions, eh bien, le bâti est en ruine, Plus des deux tiers des habitations sont détruites ou inhabitables. C'est presque 100% dans certaines localités du nord de la bande de Gaza. Tout ça a libéré d'énormes quantités de poussière et de débris dans l'environnement. Il y a une pollution considérable. Il y a des dizaines de milliers de tonnes de ruines qui prendront des années avant de pouvoir être déblayées. Et si on veut parler du système de santé, on assiste à un effondrement. Sur les 80 centres de santé primaires de la bande de Gaza, il n'y en a plus que 20 qui fonctionnent et encore au ralenti. Et les hôpitaux ont été systématiquement bombardés. Ça, je l'avais moi déjà constaté en 2009, je l'ai reconstaté en 2014. J'avais visité pas mal d'hôpitaux pendant des opérations militaires. Et les hôpitaux étaient déjà systématiquement bombardés. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Sur les 36 hôpitaux de la bande de Gaza, il y en a 12 qui sont encore en fonction partielle, tout récemment, là, et dont deux seulement qui ont un service de maternité. Et il faut savoir que dans la bande de Gaza, il y a à peu près 180 naissances par jour, et qu'il y en a eu 21 000 depuis le début de la guerre. Manque de personnel, manque de médicaments, manque d'anesthésie, manque d'électricité, manque de fuel pour faire fonctionner les générateurs. Et pour vous donner un exemple, à Khan Younes, qui est une ville du sud de la bande de Gaza, selon le Fonds des Nations Unies pour la population, il y a une maternité qui reste et qui dispose de 5 lits fonctionnels. Et au même moment, cette même maternité avait fait 78 accouchements dans la nuit, dans une nuit. 5500 femmes enceintes doivent accoucher dans le mois qui vient, sans assistance médicale. 155 000 femmes enceintes ou allaitantes sont en risque de malnutrition, avec toutes les conséquences que ça comporte pour les nouveau-nés. Les césariennes se font sans anesthésie, et au passage, le siège de Médecins du Monde, France, a été bombardé à Gaza et détruit. Dans la ville de Gaza. Donc ce ne sont pas des objectifs militaires. On ne peut pas dire non, que ce soit des... Et le dernier point, le système d'adduction d'eau est quasiment détruit. Il y a de graves répercussions sur l'hygiène et les conditions sanitaires de la population parce que l'eau est contaminée, d'où des maladies transmises par l'eau, telles que le choléra, la dysenterie et la typhoïde. Donc on est très loin pour les conditions sanitaires. On est très très loin. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu une situation pareille. Les installations de dessalement de l'eau de mer.
Oui, ça aussi.
Parce qu'il faut dire que même avant ces opérations et cette guerre, 90% de l'eau extraite à Gaza était impropre à la consommation. Parce qu'elle a été surexploitée, que l'eau de mer a envahi les aquifères. Elle était déjà... et puis elle était pas saine. Et, bon. Et cette installation de dessalement de l'eau ont été détruites. Les canalisations d'égouts, les réservoirs d'eau, des puits. Et à l'approche de l'hiver, on signale un risque de débordement des égouts. 300 établissements d'enseignement ont été aussi bombardés. Les 12 universités de Gaza sont détruites ou très endommagées et inutilisables. Les boulangeries industrielles ont été aussi bombardées. 30% des terres agricoles ont été endommagées délibérément par les troupes au sol. Le résultat, c'est un chaos complet, un champ de ruines qui prendra, comme je l'ai dit, des années à déblayer, l'effondrement de l'économie, la disparition de tous les services publics, administratifs, police, ramassage des ordures, banque, paiement des salaires, état civil, etc. etc. C'est ça le bilan actuel de la situation à Gaza.
Bien oui, tout ce que tu as dit là, ça nous parle parce que c'est absolument une situation catastrophique. C'est impressionnant. Et donc, face à cette situation, face à ce bilan, quelles sont les demandes et les actions spécifiques d'Amnesty International ?
Alors les demandes, elles sont simples. Cessez le feu immédiat et durable sur la bande de Gaza, de toutes les parties au conflit. Embargo sur les armes, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Embargo sur les armes à l'encontre d'Israël et des groupes armés palestiniens. Israël et tous les États doivent se conformer à l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Je pense qu'on en reparlera, mais il faudra donner quelques explications là-dessus. Israël doit lever le blocus illégal et inhumain sur la bande de Gaza. Israël doit autoriser l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire. Il faut que l'UNRWA, l'agence dont j'ai parlé des Nations Unies, reçoive des fonds suffisants pour poursuivre ses activités. Parce que l'UNRWA, c'est la bête noire d'Israël. Et je ne sais pas si vous vous souvenez que des membres, des employés de l'UNRWA avaient été accusés de fraterniser avec le Hamas et que, du coup, plusieurs pays ont suspendu leur financement de l'UNRWA, les États-Unis, le Royaume-Uni. La France ne l'a pas fait.
Et puis il y avait aussi libération des otages, hein, je pense, dans les demandes, dans vos demandes.
Oui, bien sûr, libération des otages. Alors, à propos de l'embargo sur les armes, je vais vous citer une lettre ouverte qui a été envoyée au président de la République française, Emmanuel Macron, par le président d'Amnesty International France, qui alerte sur l'urgence de suspendre toutes les ventes d'armes à Israël face au risque de génocide. Et ça, le risque de génocide ou l'incrimination de génocide, on pourra peut-être en reparler un petit peu si on a le temps. Alors, voilà, Jean-Claude Samouyer dit « Face au risque de génocide, il est urgent de suspendre toutes les ventes d'armes à Israël. » Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a précisé le 24 janvier que la France exportait, je cite, des équipements militaires à Israël afin de lui permettre d'assurer sa défense, comme l'article 51 de la Charte des Nations Unies lui en donne le droit, fermez les guillemets, sans pour autant préciser la nature de ces transferts, ni si ceux-ci étaient encore en cours après le 7 octobre. La transparence française est si lacunaire que ce n'est qu'en juin 2024 que la représentation nationale et la société civile seront informées des potentielles livraisons de la France à Israël. Et ça, c'était deux jours avant le rendu de la décision de la Cour internationale de justice sur les accusations de génocide par l'Afrique du Sud. Cela passe par un appel à un cessez-le-feu durable qu'Amnesty International réitère depuis des mois, mais aussi par un arrêt des livraisons d'armes et de matériel de guerre à Israël. Dans ces circonstances terribles, la France ne veut pas à la fois adhérer aux décisions de la Cour internationale, tout en continuant à armer ceux à qui la Cour a ordonné de tout faire pour prévenir le génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Nous demandons donc à votre gouvernement d'agir, etc. Alors, Amnesty se bat sur le terrain des droits et soutient l'action des tribunaux internationaux qui sont la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Alors, ce n'est pas la même chose et il faut peut-être distinguo entre les deux. La Cour internationale de justice est un organe des Nations Unies qui est compétente pour traiter les différends entre États, avec deux procédures qui pourront être soit une demande d'avis consultatif, soit une action contentieuse pour traiter des plaintes, mais entre États. Et la Cour pénale internationale, elle est indépendante des Nations Unies. Son mandat concerne les crimes internationaux les plus graves, qui sont le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, mais elle instruit des plaintes individuelles contre les responsables des violations, les plaintes qui peuvent être d'ailleurs déposées par les victimes, et qui visent les responsables des violations, mais pas seulement les exécutants, en remontant jusqu'en haut de la hiérarchie vers les donneurs d'ordre. Ouais. Alors, il faut savoir que la Cour internationale de justice avait déjà été saisie par l'Assemblée générale des Nations Unies il y a deux ans, en décembre 2022, pour une demande d'avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et c'est une demande d'avis consultatif. Les auditions ont eu lieu, mais la décision est en attente. En revanche, la Cour a de nouveau été saisie d'une plainte de l'Afrique du Sud tout récemment, le fin décembre 2023, pour génocide à Gaza. Et la réponse a été donnée assez rapidement, le 26 janvier. Et pour la Cour, l'hypothèse de génocide est plausible. Elle ne s'est pas prononcée sur le fond, mais elle a ordonné 6 mesures conservatoires qui sont pour Israël de s'abstenir de commettre des actes entrant dans le champ d'application de la Convention sur le génocide, puisqu'on se fonde sur des textes Alors la Convention sur le génocide, et le génocide est aussi défini dans le statut de la Cour pénale internationale. Prévenir l'incitation directe et publique et punir aussi l'incitation directe et publique à commettre le génocide. Là, je rappelle la citation de Yoav Gallant, le chef d'état-major, mais il y en a énormément d'autres. Il y a plusieurs ministres, beaucoup de députés qui ont fait des... Sarah Netanyahu a même dit qu'il ne fallait pas comparer les Palestiniens à des animaux humains parce que c'était vexant pour les animaux. Alors, donc, prendre des mesures pour l'incitation, prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture de l'aide humanitaire, donc on y revient à la population civile de Gaza, conserver les preuves liées à l'accusation de génocide, ça on peut toujours attendre longtemps, et présenter un rapport à la Cour d'ici un mois sur toutes les mesures prises conformément à cette ordonnance. Alors, Amnesty avait soutenu la Cour internationale dans cette procédure, et puis, le 26 février, on arrivait au bout du mois qui avait, du délai d'un mois qui avait été donné par la Cour internationale, rien ne s'étant passé, Amnesty a publié un communiqué qui s'intitule « En ne permettant pas l'entrée d'une aide humanitaire insuffisante dans Gaza, Israël ne respecte pas l'ordonnance de la Cour internationale visant à prévenir le génocide ». Et au cours de cette période, Israël a continué de faire fi de son obligation en tant que puissance occupante de répondre aux besoins fondamentaux de la population de Gaza. Alors ça, c'est intéressant parce que Amnesty ne s'est pas non plus prononcé sur le fond de l'accusation de génocide. On n'a pas encore de décision de justice qui permette de le dire, mais ça, on lit entre les lignes que c'était plausible, qu'il y avait des obligations imposées à Israël qui ne s'y est pas plié, et que donc on avance quand même vers une incrimination de génocide. En ce qui concerne la CPI, la Cour pénale internationale, elle est déjà en possession de plusieurs milliers de dossiers qui ont été établis, notamment, principalement même, après les marches du retour de Gaza, c'est en 2008-2009, chaque vendredi, il y avait des manifestations auprès de la barrière qui enserre Gaza et qui étaient réprimées très violemment. Il y avait des snipers. Il y a eu 235 morts en quelques mois et énormément de blessés et d'amputés. Et les snipers avaient, c'était pas un hasard, avaient l'habitude de tirer dans les genoux, dans le genou des personnes. Et anatomiquement, le genou, c'était avec des balles à haute vélocité qui sont très vulnérantes. Et le genou, c'est un carrefour anatomique où il y a les artères nourricières de la jambe, les veines qui drainent et les nerfs qui innervent la jambe, plus l'articulation elle-même. Et une balle explosive dans un genou comme ça, c'est une amputation. Il y a des milliers d'amputés à Gaza. D'ailleurs, ils ont fait une équipe de football. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils font des visites à l'étranger. Et donc, les Palestiniens de Gaza ont appris à faire des dossiers très professionnels qui peuvent servir à des plaintes devant la Cour pénale internationale. Et Amnesty, de son côté, s'est doté d'un laboratoire de preuves qui est une équipe de spécialistes, de données visuelles, de la télédétection, désarmement, etc., et qui utilise la géolocalisation, la reconstruction tridimensionnelle des événements, l'analyse des armes, la balistique, en vue de prouver les violations du droit international. Et ça permet aussi de prouver sur le terrain ou à distance les attaques.
Oui. On a beaucoup parlé de Gaza. Est-ce que tu peux un peu rapidement maintenant nous dire quelle est la situation en Cisjordanie avant ?
Alors, la Cisjordanie, en ce moment, tous les regards sont fixés sur Gaza. Et on assiste en Cisjordanie à une recrudescence des actes violents de la part des colons qui sont protégés par l'armée. Et ça, dans un but d'expulsion. Quelques précisions. Au 14 mars, c'est-à-dire il y a quelques jours, depuis le 7 octobre, 418 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, dont 407 par l'armée et 9 par les colons. 4700 blessés à peu près, dont plus de 700 enfants. Pendant la même période, il y a eu environ 1700 personnes qui ont été déplacées à la suite de démolitions de maisons. Et l'OCHA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dépend des Nations Unies, a recensé 645 attaques de colons contre des Palestiniens et des colons ayant vandalisé les arbres et expulsé plusieurs villageois qui ont été totalement expulsés de leur village. Quand ça se passe que, de cette façon-là, les villages sont réoccupés immédiatement par les colons. Alors, grâce au laboratoire de preuves, là, Amnesty a enquêté sur plusieurs incidents et a publié un communiqué qui constatait qu'il y avait une nette augmentation du recours à la force meurtrière illégale par les forces israéliennes contre des Palestiniens en Cisjordanie.
Bien. Alors, que pouvons-nous faire, nous ?
Peut-être pas grand-chose. On est coincé parce que le recours aux Nations Unies est bloqué par le Conseil de sécurité. Je rappelle que les États-Unis ont mis déjà leur veto à 3 résolutions depuis le début. C'était des résolutions qui demandaient simplement un cessez-le-feu. Les solutions politiques, on les voit mal. Et je crois qu'on est dans l'urgence et que le seul recours qu'on ait, finalement, c'est de faire pression sur nos gouvernements. Et de faire pression comment ? En manifestant. Il faut faire comprendre que cette guerre est injuste, que la violence doit cesser, que rien ne peut se faire. On a vu tout le bilan humain et matériel des attaques à Gaza. Rien ne peut se faire sans un cessez-le-feu durable. Et il faut le demander. Donc, il s'est créé un collectif associatives, syndicales, comprenant aussi des partis politiques. Pour les associations, il y a le France-Palestine Solidarité, bon, Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, l'Union des Juifs français pour la paix, d'autres encore. Et depuis le début février, ce collectif a organisé des manifestations, plusieurs fois à Trappes, à Saint-Cyr, au Mureau, à Versailles, des défilés, des débats. Alors, je sais bien que c'est les Yvelines. Ça s'appelle le mois pour les Yvelines, mais on est voisins. Je crois qu'on ne rejettera pas les Chavillois qui voudraient y participer.
D'autant plus qu'il y a aussi des manifestations et des réunions et des réunions d'information dans le 92. Il y a une prochaine réunion d'information à Malakoff, une soirée solidarité avec Gaza, le samedi 30 mars. À partir de 18h, et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer au Colombier à Ville-d'Avray.
Oui, le 4 il va avril. Se passer au c'est un débat à la suite de la projection d'un film qui s'appelle Bye Bye Tibériade. C'est pas tout à fait le sujet qu'on a traité aujourd'hui, puisque c'est un film qui raconte la vie d'une famille de 4 générations de femmes depuis 1947. Donc on assiste à la guerre de 47, à ce qu'on appelle la Nakba, l'expulsion des Palestiniens de 48. Mais ça fait écho, ça entre en résonance avec ce qui se passe maintenant, puisque actuellement, une bonne partie du gouvernement israélien suggère l'expulsion des Palestiniens, le transfert, ils le disent ouvertement, et ce qui serait une deuxième Nakba, une deuxième expulsion. La première Nakba a vu l'expulsion de 700 000 Palestiniens, la destruction de centaines de villages. Il y aura la dernière manifestation, c'est à Versailles.
Le
22 mars. Une marche du château à la gare des Chantiers et un débat avec l'avocat franco-israélien Salah Hamouri.
Ben écoute, merci. Je crois que je me suis trompée. C'est le 3 avril, la soirée au Colombier à Ville-d'Avray. J'ai dû dire le 4 tout à l'heure.
C'est le 3 avril.
Le 3 avril, avril. Bon. En tout cas, ben écoute, merci. Merci beaucoup, Philippe, de toutes ces informations.
Triste.
Triste. Oui.
Merci beaucoup Philippe Luxereau. On rappelle que vous êtes médecin et militant pour Amnesty International au sein du groupe local Chaville-Vélizy-Viroflay. On retrouvera dans les textes en description les coordonnées du groupe local si vous voulez vous rapprocher de cette association qui participe pleinement au tissu associatif au niveau national sur la sensibilisation autour de cette question-là, et on voit bien qu'elle est brûlante. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Exceptionnellement pour le lundi de Pâques, il n'y aura pas d'émission de Radio VCE. Vous nous retrouverez donc le 8 avril prochain. À très bientôt. Merci à tous.